Lorsqu'une ville se rendait, Saladin laissait les habitants sortir en liberté. En les voyant, le sultan souriait et pleurait, mais ne leur faisait aucun mal. Boabdil, chroniqueur arabe du XIIe siècle. Mille ans d'histoire. Le 2 octobre 1187, le baron Balian d'Higelin livrait Jérusalem au plus redoutable adversaire des croisés. Maître d'un immense empire qui s'étendait des sources du Nil aux confins de l'Arménie et du désert tunisien jusqu'aux montagnes de Perse, Saladin s'emparait d'une ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. En entrant dans la mosquée El-Aqsa, purifiée à l'eau de rose de Damas, et reprenant sans combat une ville conquise 100 ans plus tôt par les croisés, qui en avait fait la capitale d'un royaume chrétien, Saladin devenait alors, et jusqu'à aujourd'hui, une des plus grandes figures de l'histoire de l'islam.
Courbez-vous devant la lumière du monde. La main du saint prophète. Courbez-vous, courbez-vous devant Saladin, le roi des rois.
Que sais-tu de Saladin ?
Qu'il est le roi des Sarrasins et qu'il encercle ce royaume.
Il a 200 000 hommes, rien qu'à Damas. S'il fait la guerre, il sera vainqueur.
Saladin a franchi le Jourdain avec 200 000 hommes.
Mes frères ! Cette journée est un don d'Allah ! Vous ne ferez pas de prisonniers! Agissez comme ils l'ont fait! C'est la voie des justes! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Thierry Delcourt, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un beau livre sur les 8 croisades qui, pendant 2 siècles, ont opposé les croisés aux musulmans, et parmi ces derniers, le plus célèbre sans doute d'entre eux, qui était Saladin, qui reprenait Jérusalem en 1187. Saladin, dont tous les musulmans connaissent encore aujourd'hui le nom, d'abord parce qu'il a été le premier à réaliser un vieux rêve, justement, des musulmans, c'est leur réunification. Car à l'époque des croisades, au début des croisades, eh bien, l'islam était profondément divisé.
Oui, il était divisé déjà entre les chiites et les sunnites, le sunnisme étant représenté, incarné par le calife de Bagdad, tandis qu'en Égypte régnait la dynastie fatimide, chiite, donc schismatique. Par ailleurs, il y avait aussi d'autres sectes, comme les ismaéliens, représentés par les assassins. Les achachines du vieux de la montagne. Et puis, sur le plan politique, le monde musulman était profondément divisé entre le reste, les vestiges de l'ancien empire arabe, les domaines dominés par les Turcs, envahisseurs installés depuis le début, la première moitié du 11e siècle en Anatolie, en Asie centrale, et puis bien entendu également des populations du berbère ou d'autres populations indigènes qui étaient plus ou moins soumises au pouvoir central.
Alors, division qui explique peut-être le succès de la première croisade à la fin du 10e siècle, la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, et puis la mise en place d'un grand royaume de Jérusalem, en fait, un royaume et puis 3 comtés ou principautés. Il faut peut-être rappeler aussi tout de suite comment étaient organisés justement ces États latins d'Orient, comme on les appelait, Thierry Delcourt.
Alors, les États latins d'Orient, ils se sont organisés de manière chronologique au fur et à mesure de la conquête. D'abord par le comté d'Édesse, conquis un peu par hasard, suite à une opération un peu de brigandage.
Tout à fait au nord,
tout
au
à fait au nord, très très loin en fait du centre des États francs. La principauté d'Antioche, au nord de l'actuel Liban, qui est un État qui a toujours posé des problèmes parce que revendiqué par l'Empire byzantin, hein, puisque c'était un territoire très anciennement byzantin et qui venait tout juste d'être conquis par les Turcs lorsque les Francs s'y sont présentés. Le comté de Tripoli, qui correspond à peu près au sud du Liban, et puis le royaume de Jérusalem, alors qui correspond à peu près à l'étendue géographique actuelle d'Israël et des territoires palestiniens, mais qui va un peu au-delà, jusqu'à Amman, en Jordanie. Donc un ensemble assez, relativement vaste, que finalement peu de chevaliers francs suffisent à conquérir.
Alors qui tient bien ce qui se pendant à peu près un demi-siècle jusqu'à ce qu'ils subissent leur première défaite, ces croisés, ces états francs avec l'émir, je crois, de Mossoul qui s'appelait Zangi, qui prend la ville d'Édesse, ce qui va faire tomber d'ailleurs le comté d'Édesse et provoquer la deuxième croisade, une croisade d'ailleurs qui n'a pas eu de suite, hein, qui a été un échec pour les croisés. Et puis alors Zangi qui a été le premier aussi à vouloir rassembler les musulmans avant un autre qui était important, qui a précédé Saladin, qui s'appelait Nur al-Din.
Oui, alors Zangi, effectivement, c'est le fondateur d'une dynastie, puisque Nur al-Din est son fils, et c'est effectivement le premier qui réussit à reprendre du terrain aux Francs. Et c'est pour ça que la conquête d'Édesse en 1144 a eu un tel retentissement en Occident, puisque finalement, sur le plan stratégique, ce n'était pas si important, hein, on était assez loin des bases franques, mais le fait que les Francs qui se considéraient comme ayant une mission de libération de la Terre Sainte aient pu être vaincus par des musulmans a eu vraiment un énorme retentissement qui a justifié cette deuxième croisade prêchée par Saint Bernard.
Alors Nur al-Din donc rassemble les musulmans, et le premier à le faire, oui, en prenant le contrôle essentiellement de la Syrie, et puis ce sera après lui, Saladin, qui devient sultan d'Égypte et qui deviendra le pire adversaire des croisés contre lesquels il va organiser une armée redoutable.
L'issue d'une bataille ne dépend pas seulement d'Allah, mais aussi du degré de préparation, des forces en présence, de la bonne santé des soldats et du libre accès aux points d'eau. Pour assiéger une ville, il ne faut pas avoir d'ennemis dans le dos. Combien de batailles Allah a-t-il fait gagner aux musulmans avant que je règne ? C'est-à-dire, avant qu'Allah ne décide de me confier le royaume.
Très peu, c'est vrai. C'était en punition de nos fautes.
Non, c'est parce que vous n'étiez pas prêts.
Raisonne ainsi et tu ne resteras pas longtemps sur le trône.
Si je ne suis plus roi, tremblez pour l'islam.
Tu as promis de nous rendre Jérusalem. Souviens-t'en.
Alors avant de prendre Jérusalem, Saladin va rassembler l'ensemble du monde musulman autour des états chrétiens. Saladin qui n'était pas égyptien, même s'il était sultan d'Égypte, qui n'était pas arabe non plus, il était musulman, mais il était d'origine kurde.
Kurde, oui, absolument. Alors il s'appelait en fait Yusuf ibn Ayyub, d'où le nom d'ailleurs de sa dynastie, les Ayyubides, et Saladin était son surnom, et ça signifie « rectitude de la foi ». Il était né effectivement dans le Kurdistan actuel, au nord de l'Irak, à Tikrit, ville qui a aussi connu un autre enfant célèbre, Saddam Hussein.
Oui, Saddam Hussein, qui comme beaucoup de dirigeants arabes d'ailleurs, passe son temps à invoquer Saladin. Hein,
absolument, oui. Et Saladin est une figure très importante dans l'imaginaire arabe. Et il a accompagné son père au service de Zengi, et puis ensuite il est entré un petit peu plus tard au service de Nur al-Din comme un de ses lieutenants. Côtés de son oncle Shirkuk, qui sera lui le premier conquérant de l'Égypte.
Alors il va rassembler sous son autorité à la fois l'Égypte dont il était le roi, puis ensuite la Syrie, si bien qu'il encercle littéralement les états chrétiens, oui. Mais avec eux il entretient, semble-t-il au début, de bons rapports, il n'ose pas trop les affronter immédiatement, et notamment avec le roi de Jérusalem, Baudouin IV, le roi lépreux, hein, qui était très jeune, et avec lesquels laquelle il conclut une trêve assez longue.
Oui, c'est ça. La situation était un petit peu compliquée parce qu'il avait aussi affaire à des résistances dans ses propres états, notamment en Syrie. Après la conquête de l'Égypte, où il a pu s'installer de manière assez solide, il a fallu quand même qu'il prenne le contrôle de la Syrie, de l'Irak. Et pour cela, il avait besoin d'un peu de tranquillité du côté franc. D'autant que les États francs étaient relativement solides et bénéficiaient de secours très réguliers venus d'Occident. Donc, effectivement, on voit des tentatives d'escarmouches, des batailles, mais rien de très sérieux jusqu'à la fin du règne de Baudouin IV.
Alors donc une trêve qui va être assez longue, une trêve qui va être menacée à plusieurs reprises par un personnage essentiel dans l'histoire que l'on raconte, c'est-à-dire le prince d'Antioche, Renaud de Châtillon.
Voilà, Renaud de Châtillon qui a d'abord été prince d'Antioche, puis comte de Tripoli, puis...
Voilà. Et ce Renaud de Châtillon qui était un personnage extrêmement turbulent et qui allait provoquer au fond la guerre entre Saladin et les Croisés, qui avait même entrepris de s'emparer des villes saintes des musulmans, d'aller jusqu'à Médine.
Absolument, c'est-à-dire qu'il a lancé une expédition maritime dans la mer Rouge, qui s'est aventurée très très au sud de la péninsule arabique, et qui est arrivée à quelques kilomètres de la Mecque, sans le savoir, sans s'en rendre compte. L'affaire s'est très mal terminée, les quelques marins ont été massacrés par les troupes de Saladin, envoyées en esclavage. Mais l'affaire a quand même eu un très grand retentissement dans le monde musulman, parce que c'était la première fois que des chrétiens étaient sur le point de toucher au lieu saint.
Et puis alors ce Renaud de Châtillon va continuer comme ça ses escarmouches avec les musulmans, y compris après la mort de Baudouin IV, auquel succède Guy de Lusignan. Oui. Et en 1187, il va rompre la trêve conclue avec Saladin en attaquant une caravane de musulmans.
Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon, à la tête des Templiers, ont attaqué une caravane sarrasine. Renaud, avec ses Templiers, a rompu le serment de paix du roi. Saladin va attaquer notre royaume. Nous ne voulons pas d'une guerre contre Saladin. Nous voulons l'éviter, et notre victoire n'est pas assurée.
Blasphème !
Blasphème ! Proclamons la guerre !
C'est la volonté de Dieu !
C'est la volonté de Dieu !
C'est la volonté de Dieu !
Et c'est ainsi qu'en 1187, en attaquant une caravane, Renaud de Châtillon déclenchait une guerre entre Saladin et les chrétiens. D'ailleurs, Saladin n'attendait que ce prétexte pour proclamer le djihad.
Absolument.
Thierry Descours.
Il faut dire aussi que cet incident arrivait au plus mauvais moment pour les États francs. Baudouin IV était mort, son neveu Baudouin V, un tout petit enfant, était mort l'année suivante, à 10 ans à peine. Un nouveau roi avait été couronné, mais il s'agit de Guy de Lusignan. Il rencontrait de nombreuses oppositions au sein des barons francs, donc le royaume était divisé. Alors, cette attaque arrive à ce moment-là, alors que, Saladin, lui, n'attend qu'une occasion, comme vous le disiez, pour lancer la guerre sainte, régénérer cette idéologie du djihad qui avait déjà été brandie par Nour ed-Din avant lui, et pour lancer l'attaque définitive contre le royaume de Jérusalem.
Et une attaque qui va être désastreuse pour les croisés, qui se font des illusions, qui surestiment leurs forces, et alors qu'ils vont subir leur plus grande défaite sans doute de toute l'histoire des croisades, la bataille de Hattin, qui était en juillet 1187, Thierry Delcourt.
Oui, alors en plus cette bataille avait déjà été précédé d'une autre grande défaite à la fontaine du Cresson le 1er mai, où le grand maître du temple et le grand maître des hospitaliers avaient été tués. Donc l'armée était déjà affaiblie. Et le 3 juillet, l'armée franque qui est réfugié, enfin, attend près d'un lieu qui s'appelle, enfin, qui est un lieu très arrosé avec de nombreuses fontaines qui permettent d'abreuver les chevaux, décide, contre tous les conseils des hommes avisés, de marcher sur Tibériade, assiégé par Saladin. C'est une erreur tactique énorme, parce que la route entre jusqu'à Tibériade est une route extrêmement dure. Il fait très chaud, on est en plein juillet, les animaux sont assoiffés, les chevaliers sont très lourdement armés, ils ne réussissent pas à avancer au rythme nécessaire, ils sont harcelés par les archers de Saladin, et ils sont obligés de camper dans la nuit du 3 au 4 juillet, entourés par l'armée de Saladin qui allume des feux, donc ils ne peuvent pas dormir. Le lendemain matin, ils repartent, ils sont obligés de se réfugier sur une hauteur qui s'appelle les Cornes de Hattin, au-dessus de Tibériade, et là, l'armée de Saladin lance l'assaut décisif contre ces chevaliers très mal équipés pour une bataille dans des lieux aussi escarpés, aussi difficiles.
Et qui vont subir des pertes considérables.
Considérables.
Et alors le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et ce fameux Renaud de Châtillon sont capturés eux-mêmes. Alors là, il va avoir un sort différent. Saladin va décapiter l'un
et
épargner l'autre.
Voilà, c'est ça. Renaud de Châtillon, qui était considéré comme un traître...
celui qui avait rompu la trêve.
Voilà, est immédiatement décapité par Saladin, qui lui a quand même proposé de se convertir à l'islam. Et Renaud ayant refusé, il est immédiatement décapité. Tandis que Guy de Lusignan est traité comme un ennemi valeureux.
Un roi ne tue pas un roi, lui aurait dit Saladin.
Exactement. Ouais. Un autre événement très important lors de cette bataille, c'est que la relique de la vraie croix est prise par les Arabes. Or, c'est le symbole de la reconquête des lieux saints par les chrétiens. Donc, c'est une véritable catastrophe pour les États francs.
Alors, cette reconquête n'est pas achevée pour Saladin, bien entendu. Il se dirige alors lentement vers Jérusalem, parce qu'il prend d'abord toutes les villes de la côte. Et puis, il arrive devant Jérusalem le 17 septembre 1187. Jérusalem, où se sont réfugiés des quantités de gens terrorisés par l'arrivée de Saladin.
Environ 20 000 francs se sont réfugiés dans Jérusalem, ce qui donne d'ailleurs une idée du peuplement de la région. On voit que finalement, tout le royaume de Jérusalem n'était guère occupé que par quelques milliers de latins.
Jérusalem donc défendue pendant 2 semaines par Balian d'Higelin, qui finit par renoncer à défendre la ville. Quand Saladin lui propose d'épargner ses habitants, il décide de lui ouvrir les portes de Jérusalem.
Qu'est-ce que Jérusalem ? Vos lieux saints sont bâtis sur les ruines du temple juif que les Romains ont abattu. Les musulmans ont bâti leur lieu de culte sur les vôtres. Qu'y a-t-il de plus sacré ? Le mur ? La mosquée ? Le sépulcre ? Qui est légitime ? Nul n'est légitime. Tous sont légitimes.
Il ose blasphémer.
Silence, l'évêque.
Nous ne défendons pas cette ville pour protéger les pierres, mais le peuple qui vit à l'intérieur de ces murailles.
J'ai livré Jérusalem. Saladin nous accorde un sauf-conduit jusqu'en terre chrétienne. Si c'est ici le royaume des cieux, que Dieu en dispose selon sa volonté.
En fait, Jérusalem est tombée pratiquement sans combat, Thierry Delcourt.
Oui, alors, bien entendu, ses défenseurs francs étaient démoralisés par ce qui venait de se produire. Et puis la population musulmane qui habitait sur place, et même d'ailleurs une partie des chrétiens orientaux, ne souhaitaient que le retour de la domination arabe, évidemment. Donc, la solution la plus raisonnable était effectivement de rendre les armes sans trop résister.
Saladin épargnant la population de Jérusalem, ce qu'il ne faisait pas toujours dans toutes les villes où il passait, mais il l'a fait. Voilà. Il y a une très belle formule de Saladin, très actuelle je trouve d'ailleurs. « Garde-toi, disait-il, de verser le sang, car le sang versé ne dort jamais. »
Voilà. Et puis il a été très, très soucieux aussi de laisser aux chrétiens un certain nombre de symboles. Et en particulier, il a empêché ses soldats de démolir l'église du Saint-Sépulcre. Alors que voulait absolument, bien sûr, s'attaquer à ce symbole de l'occupation.
Peut-être parce qu'en 1099, c'est-à-dire un siècle avant, 90 ans avant, eh bien, quand les croisés avaient pris Jérusalem aux musulmans, il y a eu un véritable massacre.
Absolument.
À ce moment-là.
Oui,
et
oui.
Là, justement...
Et le souvenir en était resté.
Et le souvenir en était resté. Donc, la population est épargnée. Mmh. Mais alors, en Occident, ça a une conséquence considérable. Ça va provoquer la troisième croisade,
oui.
Thierry Delcourt.
Non sans mal, car les souverains occidentaux ne sont pas forcément tous très enthousiastes, en particulier le roi de France Philippe Auguste et Henri de Plantagenet, qui sont en conflit permanent pour la domination de la Normandie et de l'Aquitaine, n'ont pas très envie de s'engager dans une expédition commune. Et puis finalement, la mort d'Henri de Plantagenet permet d'arranger les choses, et Philippe Auguste décide de se croiser en même temps que Richard Cœur de Lion, le nouveau roi d'Angleterre, pendant que en Allemagne, l'empereur se croise parallèlement.
Alors l'empereur, c'est Frédéric Barberousse, oui. Lui, il va mourir en route pour la croisade. Il meurt noyé dans un fleuve au sud de la Turquie. Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste arrivent ensemble à peu près, pas par le même chemin, mais arrivent à Acre, oui. Qu'ils prennent d'ailleurs à Saladin. Oui. Et puis Philippe Auguste abandonne Richard Cœur de Lion, qui se retrouve tout seul, au fond, devant Saladin. Il y avait une grande estime, bien qu'ils étaient ennemis, entre les deux hommes,
Thierry
Delcourt.
Oui, c'est vrai.
Ils s'admiraient réciproquement.
Ils s'admiraient, il y a eu des échanges d'ambassade, il y a même eu une tentative d'union très personnelle entre Richard Cœur de Lion et Saladin, puisque Richard a proposé à Saladin d'épouser sa sœur pour unir les destinées de l'État musulman et du royaume latin.
Alors donc, il s'empare de la ville d'Acre, je parle de Richard Cœur de Lion. En revanche, il renonce à prendre Jérusalem, alors que c'était l'objectif. Il fallait reprendre à nouveau Jérusalem sur les musulmans.
Oui.
Il ne le fait pas.
Il ne le fait pas, il tente de le faire quand même. Et donc, il y a toute une expédition qui aboutit d'ailleurs à une grande victoire sur les armées de Saladin, à Arsouf. Mais l'expédition traîne, les conditions du pays sont absolument exécrables. Il fait toujours très chaud, les chevaliers s'impatientent. Et donc, finalement, ça, Richard Cœur de Lion, qui est pourtant en vue de Jérusalem, doit renoncer à prendre la ville parce qu'il craint les défections dans son armée.
Et il finit par accepter donc une trêve que lui propose Saladin le 2 septembre 1192.
Votre Altesse, l'ambassadeur sarrasin est arrivé.
À son souverain seigneur, son Altesse Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, le salut respectueux de Saladin, roi des rois, sultan d'Égypte et de Syrie. Lumière et refuge de la terre. Laisse s'établir une trêve entre nous, tandis que l'émir Hilderim, qui sait sauver l'homme de la mort, sauf de celle qui est inscrite sur son front, va chasser l'ange de destruction loin de ta tente. Qu'en pleine vigueur reviendra Richard Cœur de Lion, que l'issue de cette guerre puisse se décider par rencontre entre lui et moi, seul à seul.
Et cette trêve, la trêve de Jaffa, donc laisse à Saladin Jérusalem, hein, mais en revanche, la côte reste encore entre les mains des croisés.
C'est ça. Donc les conséquences de la troisième croisade ne sont pas totalement négligeables, puisqu'elles ont permis aux Francs de reconquérir toute la bande côtière, de s'installer durablement autour d'Acre en particulier, et pour un siècle, puisqu'il faudra attendre 1291 pour que les derniers établissements tombent aux mains des musulmans.
Mais en revanche, ils gardent Jérusalem. Ils vont le garder d'ailleurs pendant 8 siècles, pratiquement.
Oui, pratiquement. Il se trouve quand même que Frédéric II va réussir à reprendre Jérusalem pour une dizaine d'années, en 1239. Et puis que Thibaut IV de Champagne aussi, à l'occasion d'une expédition, reprendra très, très provisoirement Jérusalem un petit peu plus tard. Mais il est vrai que la ville est de fait redevenue musulmane à cette date.
Et ça, là, malgré 5 autres croisades, il y en a eu 8 au total, 8, Thierry Delcourt.
Oui. 8 principales.
8 principales, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des croisades, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne sur les musulmans.
Oui, et puis beaucoup de petites expéditions mineures.
La croisade contre les Albigeois aussi, par exemple.
Oui.
Mais enfin, bon, il y en a eu beaucoup. Alors, Saladin est mort l'année suivante. Je crois d'ailleurs qu'il avait été, il avait été assez tolérant avec toutes les religions, conscient que Jérusalem n'était pas la ville n'était pas que la ville de sa religion.
Absolument. Et une des clauses de la trêve de Jaffa, c'était justement de permettre aux chrétiens d'accomplir le pèlerinage de Jérusalem. Donc, effectivement, la fin de la vie de Saladin est marquée...
Il est mort un an plus tard.
Oui, très, très vite, sous le sceau de la tolérance. Ouais. Et c'est l'image qui va rester de lui, à la fois en Occident et en Orient.
Et avec une grande renommée, qui a dépassé d'ailleurs le monde musulman, il était admiré aussi par les chrétiens en Occident.
Oui, et d'ailleurs, il y a une chanson de geste célèbre du cycle de la croisade qui raconte l'histoire de la vie très imaginaire de Saladin, puisque Saladin séduit la reine de France, il vient en Occident et sur son lit de mort, il décide de s'administrer lui-même le baptême.
Oui, tout ça était une légende, évidemment.
Bien sûr, évidemment.
Mais c'est assez extraordinaire. Au fond, c'était un personnage assez étonnant. On a rarement vu, surtout dans ce qu'on appelle aujourd'hui ou dans ce qu'on refuse d'appeler l'équivalent de nos croisades, un tel respect mutuel de la part des adversaires, comme ça a été le cas entre Saladin et notamment Richard Cœur de Lion.
C'est vrai, oui, on a l'impression d'avoir face l'une à l'autre deux grandes figures qui se respectent, qui s'admirent, qui connaissent leurs valeurs respectives, mais qui restent quand même campés sur leur position et en particulier sur leur foi.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est la destinée ensuite du nom de Saladin. Parce que Saladin, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État dans le monde arabo-musulman s'en inspirent.
Oui, c'est devenu un symbole politique même depuis très longtemps, puisque même Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, a essayé d'exploiter le nom de Saladin comme le vainqueur des Français et des Anglais. Oui. Il a donc notamment construit un nouveau tombeau pour Saladin à Damas. Et puis, évidemment, Saladin a été exploité en Syrie, en Irak, en Égypte, par Nasser également.
Oui, l'autre nom de Saladin, c'était Al-Nasir, celui qui reçoit la victoire de Dieu. Et c'est un nom très répandu en islam.
Oui, tout à fait.
Al-Nasir.
Oui. Et Saladin est très présent dans l'enseignement primaire, dans le monde arabe. Et, voilà, on fait de lui un peu l'équivalent de Jeanne d'Arc pour la France de la Troisième République. C'est le libérateur, l'homme qui incarne la grandeur du nom arabe.
Et puis surtout aussi celui qui a réalisé, pas pour longtemps parce qu'après sa mort, son empire va se disloquer, mais qui a réalisé un vieux rêve au fond du monde arabe et même de l'islam en général, au-delà des arabes musulmans, c'est-à-dire leur réunification.
Une réunification partielle, puisqu'il restait quand même les Turcs en Anatolie. Mais c'est vrai, effectivement, il est le symbole de cette unité, de cette oumma, qui reste un rêve durable pour tous les musulmans et tous les arabes.
Merci Thierry Delcourt. Pour en savoir plus sur les croisades en général, je recommande la lecture de votre livre « Les croisades, la plus grande aventure du Moyen-Âge » illustrée par une très riche iconographie et des photographies de Charles Nguyen et qui vient de paraître chez Nouveau Monde Édition. Vous êtes également l'auteur de la littérature arthurienne aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. À lire enfin deux livres publiés aux éditions Gallimard Découverte, Saladin, le Sultan Chevalier de Jean-Michel Mouton et L'Orient des Croisades de Georges Tate. Et enfin, il vient de sortir en librairie un livre de Pierre Aubé, Un croisé contre Saladin. C'est tout simplement l'histoire de Renaud de Châtillon et qui a été publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Kingdom of Heaven de Ridley Scott, disponible en DVD chez Pathé, et Richard Cœur de Lion de David Butler. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Anne-Laure Cochet et Céline Bonhomme, documentation et archives, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.